Voilà.
Yeah.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, 10 ans, waouh, déjà 10 ans. Je me souviens quand la direction de RFI m'a proposé de présenter cette émission, je suis ressortie du bureau avec un gros point d'interrogation. L'environnement, pourquoi pas, ça a l'air intéressant, mais c'est quoi exactement ? 10 ans plus tard, je ne suis pas sûre de pouvoir réellement en donner une définition, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai acquis des convictions. Avec François Porcheron, nous avons marché sur tous les continents, nous avons nagé dans tous les océans, à l'arrivée, 1300 émissions, plus de 800 reportages, que de voyages, de rencontres, de paysages, de l'Afrique du Sud à la Laponie, de la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie. Notre planète est si petite à la vitesse de l'avion. Et le bilan carbone, me direz-vous, vous n'avez pas honte de toute cette pollution ? Bah si, un peu, beaucoup même. Mais c'est le prix à payer, du Gabon au Sénégal, du Maroc à l'Afrique centrale, entre émerveillement et abattement, comme une chronique d'une catastrophe annoncée, documentée par des rapports scientifiques étayés. Parce que dans de nombreux endroits, la vie est déjà impactée, compliquée, mais je refuse de céder au découragement, même si nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous adapter aux nouvelles règles dictées par une nature dégradée. En 10 ans, cette émission a changé mes habitudes de consommation, elle a aiguisé mon regard sur les paysages et développé un sens critique de nos fonctionnements politiques et économiques. C'est pas du vent, vraiment, vraiment. Alors pour nos 10 ans, nous sommes ici, à l'espace Grande Contrôle, en plein centre de Paris. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous regarder en Facebook Live. Et oui, en 10 ans, la radio aussi a évolué. Donc je nous souhaite pour cet anniversaire encore plein d'émotions, de rencontres, de connaissances à partager avec vous, évidemment, alors que la fête commence.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Anne-Cécile, je souhaite un excellent anniversaire à votre émission C'est pas du vent. 10 ans déjà. Désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire encore une fois et je vous souhaite le meilleur pour les 20 ans à venir et plus encore.
Excellent anniversaire à Ce n'est pas du vent, une émission pertinente, même impertinente, dans un monde dangereux et disons-le relativement cinglé et donc une émission cruellement utile. Joyeux anniversaire et surtout très longue vie.
Joyeux anniversaire à l'émission C'est pas du vent. 10 ans ça se fête, 10 ans d'enseignement, 10 ans de renseignement, 10 ans d'accompagnement. Donc joyeux anniversaire à l'émission C'est pas du vent. Joyeux anniversaire à Anne-Cécile Brun. Joyeux anniversaire à toute l'équipe de la RFI.
Joyeux anniversaire C'est pas du vent. Bah, nous avons besoin de C'est pas du vent parce qu'avec C'est pas du vent, on est garanti d'avoir de l'eau, des montagnes et encore une nature vivante. Donc continuez comme ça, continuez toujours en avant. Mettez-nous en alerte sur tous les dangers et mettez en avant tous ces gens qui se battent pour l'environnement. Je vous embrasse fort.
Merci à Chani de l'ONG Kalaouet à Bornéo, au philosophe Dominique Bourg, à Jibi Nyang, des jeunes volontaires pour l'environnement, à Jean Gop de Nébédaï, tous les deux au Sénégal. Vous venez de les entendre. Et merci à tous les auditeurs pour les nombreux messages que vous nous avez envoyés. On a été submergés, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais c'est promis, on va s'y employer. Allez, je vous présente tout de suite nos premiers invités. Gilles Boeuf, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, professeur à la Sorbonne et vous présidez le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. À vos côtés, Franck Courchamp, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écologue et directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Sud. Patrice Burger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association CARI qui intervient depuis plus de 20 ans auprès des populations rurales du pourtour du Sahara pour les aider à lutter contre la dégradation des terres. Sabrina Crive, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes primatologue, fondatrice du projet pour la conservation des grands singes qui protège entre autres les chimpanzés en Ouganda. Et Sergio Lopez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président et fondateur de l'association Wildlife Angel qui se bat contre le braconnage en Afrique. Et nous avons dans le public Patrick Vivray qui est notre philosophe sentinelle du soir. Il est assis là au premier rang et il viendra à la fin de l'émission nous faire l'amitié de nous livrer sa conclusion. Gilles Boeuf, on va démarrer avec vous. Vous êtes souvent venu dans C'est pas du vent pour nous parler justement de cette biodiversité, de sa fragilité. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous raconter comment tout ça a commencé, comment la vie, rappelez-nous comment la vie est née sur Terre.
C'est une histoire de chimie, en fait. Je vais nous reporter à un peu moins de 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Nous avons des terrains au Groenland aujourd'hui, datés à 3,8, 3,9. Il y avait du vivant. Alors, ça peut être des cyanobactéries, des choses comme ça. Le vivant, au début, ce sont des toutes petites cellules, bien évidemment. La vie est cellule partout, hein. Et donc, ce vivant, la chimie sait faire des petites sphérules qui peuvent se diviser, mais il n'y a pas de reproductibilité à l'identique comme le fera le vivant. Il va se passer un événement vers un peu plus de 1 milliard d'années dans cet océan ancestral, c'est le sexe. Vous en savez tous quelque chose. C'est génial, le sexe, mais c'est compliqué. Mais ça va permettre au vivant, en fait, une fabuleuse capacité à faire du divers. Vous êtes fils d'un papa et d'une maman ou fille, et vous n'êtes ni votre maman ni votre papa. Et ça, ça va permettre au vivant, en fait, de bien mieux pouvoir réagir à des fluctuations de l'environnement. Et ces cellules qui vont se diviser chez des bactéries vont après donner plus tard à des êtres pluricellulaires. Hein. Un corps humain, c'est des milliards de cellules. Et cette vie a une fabuleuse capacité, c'est qu'elle peut effectivement se reproduire. Et surtout, elle a une propension absolument incroyable à la capacité d'acclimatation et d'adaptation. Et en fait, je terminerai là-dessus. Gould disait en fait, l'évolution, ce sont de très longues périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce que ça ne bouge pas à l'extérieur. Mais dès que ça commence à bouger, le climat, par exemple, on est en plein dedans, ça oblige le vivant à réagir et à faire de nouvelles espèces. Et tout s'est passé comme ça. Et aujourd'hui,
donc,
pour
tout
terminer,
a débuté dans l'océan.
Oui.
Et petit à petit, c'est devenu terrestre.
Alors, vers 450 millions d'années. Et aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qu'on connaît? 2,2 millions d'espèces vivantes, mais on pense que c'est à peu près 10% de ce qui existe. Sauf qu'au rythme actuel de 16 000 à 18 000 par an découvertes, il nous faut 1000 ans pour mettre en évidence ce qui existe. Or, au rythme actuel où ça part, on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle.
Oui, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que cette vie, elle a mis des millions d'années à exister sur la planète. Et aujourd'hui, on assiste, on peut le dire, à son effondrement.
Voilà, je préfère le mot effondrement qu'extinction. L'extinction sous-entend la fin de la fin du dernier individu d'une population. Alors, on a eu des crises d'extinction. En gros, on en connaît une soixantaine depuis 600-700 millions d'années, dont cinq majeures, dont la question qui a été posée par des gens il y a une dizaine d'années, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place aujourd'hui les conditions d'une sixième grande crise. On assiste à un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'accélération, cet effondrement, et réellement, le mot n'est pas trop grand, effroyable. Qu'est-ce qu'on fait? On a peur du climat qui change. On n'a pas suffisamment peur du vivant qui s'en va. Et simplement, ce vivant est très sensible au climat qui change. Mais on oublie une chose, c'est que le vivant qui s'en va, en retour aussi, affecte le climat.
Et le vivant qui s'en va, ça se voit aussi dans les sols, Patrice Burger. Vous travaillez sur les sols. Alors, on a tendance à dire, hein, quand vous êtes venu plusieurs fois, vous aussi, dans C'est pas du vent, que le sol, on marche dessus. Donc, finalement, on ne s'y intéresse pas, on ne le regarde pas. Alors que là aussi, notre vie est étroitement liée à ces terres.
Oui, effectivement, je pourrais raconter la même histoire sur la formation des sols qui ont mis des millions d'années à se fabriquer. Vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'il faut pour fabriquer un centimètre de sol. Or, aujourd'hui, la dégradation, ce qu'on appelle la dégradation des terres et des sols, elle va 10 à 20 fois plus vite que par le passé. Donc, on est en train, là aussi, de dégrader. Alors, je m'occupe plus particulièrement des zones arides, des zones sèches de la planète, qui représentent de l'ordre de 44% de la surface terrestre et où vivent à peu près 1,5 milliard à 2 milliards de personnes. Ces gens sont affectés par la sécheresse, par l'aridité, par la chaleur et ce qu'on appelle le processus de désertification, c'est la dégradation de la capacité des sols à générer la biodiversité, à héberger la biodiversité, à filtrer l'eau, c'est-à-dire à nous rendre un certain nombre de services, et ça affecte une grande partie de la population mondiale. J'ai l'habitude de dire, des terres dégradées, ça mène à des vies dégradées. Et des vies dégradées, ça mène à des migrations. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de migration internationale, il faut revenir un petit peu aussi à la genèse, puisque on a aussi dénombré que dans les 40 dernières années, 60% des conflits dans le monde sont liés à la dégradation des ressources naturelles.
Alors, quelles sont les causes ?
Mode de production agricole inadapté, agriculture industrielle, urbanisation, monoculture, déforestation, utilisation des produits chimiques de synthèse. Tout cela fait que, au nord et au sud, on a une dégradation des terres qui est extrêmement importante. Alors ça affecte beaucoup de choses. Changement climatique, par exemple. Le dernier rapport du GIEC, il dit 23% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la manière dont on traite la terre. Pour nous, ce qui est très important, c'est de faire le lien entre cette dégradation des ressources naturelles qui sont des préoccupations environnementales et cette préoccupation de développement d'une grande partie de la population pauvre de la terre qui, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle on propose des techniques d'agriculture écologique qui répondent bien dans ces milieux-là.
Parce que les terres, ça se refertilise. Assez simplement. On n'a pas le temps de développer, mais ça coûte pas cher. Et c'est, on l'a compris, un investissement vraiment rentable aussi pour lutter contre le changement climatique. Donc on se demande pourquoi on ne le fait pas.
C'est le vivant qui est affecté. Et le vivant, c'est ce qui nous est commun à tous. Donc aujourd'hui, le grand défi, c'est comment on sauvegarde le vivant dont nous faisons partie. C'est ça la grande question.
Franck Courchamp, vous avez mis au point des systèmes extrêmement compliqués justement pour dénombrer la biodiversité et vous vous êtes rendu compte, vous faites partie des scientifiques qui avaient publié des papiers très intéressants là-dessus, que en fait il y a un grand décalage entre l'impression que l'on a de l'existence des animaux que l'on aime, on parlait des singes, des éléphants, des girafes, là on parle pas des bactéries et des insectes, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les aimer un petit peu moins, mais ils sont aussi très affectés. Il y a un grand décalage entre l'imaginaire et la réalité, qui vient d'où?
Il y a un grand décalage sur beaucoup de choses. C'est aussi mon anniversaire bientôt. Dans 3 jours, je vais avoir 50 ans. Quand je suis né, il y avait 2 fois moins de gens sur Terre. On a doublé dans le temps de mon existence, on a multiplié par 10 le commerce international, on a multiplié par 10 la pollution en plastique, et pendant ce temps-là, on a divisé par 3 le nombre de mammifères et d'oiseaux qu'il y a sur Terre. On ne se rend pas forcément compte qu'il y a moins d'animaux, qu'il y a moins d'oiseaux qui chantent, parce que ça met longtemps. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent que quand ils étaient jeunes, il y avait des insectes écrasés sur le pare-brise lors des longs voyages, ce qui n'existe plus du tout maintenant. Mais il faut attendre des études pour quantifier qu'effectivement, les insectes ont chuté de manière drastique, près de 80% dans les pays européens ces dernières décennies. Et on a perdu aussi les animaux qu'on aime le plus, ceux qu'on a l'impression de connaître le mieux. Si on regarde les animaux qui sont au palmarès des coups de cœur des gens...
Ceux qui sont dans les dessins animés de Disney, quoi.
Voilà. On a le lion, le tigre, l'éléphant, la girafe, etc. Eh bien, si on fait l'étude de l'état des populations des 10 espèces préférées, elles sont toutes catastrophiques. On mentionnait la girafe tout à l'heure. Il y a 7 espèces de girafes. Il y a une de ces 7 espèces qui a perdu 95% de ses individus en une génération, en 35 ans. Le lion, c'est pareil, il en reste quasiment plus, on est à moins de 10%. Le tigre, il y a 1500 individus répartis en une centaine de populations toutes petites et qui peuvent
plus se
reproduire.
Oui, mais nous ici, on les voit partout, on les voit sur les logos, on les voit dans les dessins animés, on a l'impression qu'ils sont encore vivants.
Tout à fait. Il y a un décalage entre les populations naturelles et ce qu'on appelle, nous, les populations virtuelles, celles qui, en fait, captent notre attention. Parce que des lions ou des girafes, on en voit tous les jours sur les t-shirts, dans les dessins animés, sur les affiches, sur les paquets de céréales, sur tous les logos de marketing. Et du coup, on a cette fausse impression que ce sont des animaux qui sont communs, alors que ce sont des animaux qui sont en train de s'éteindre. Il y a moins de 20 000 lions qui existent à l'état sauvage.
Et donc vous dites, c'est comme si on avait empilé une pile de pièces. Et là, la dernière.
Le problème, ce n'est pas forcément qu'il y a des espèces qui s'éteignent. Parce que des espèces, ils s'en éteignent tout le temps. Ils s'en éteignent depuis le début. On ne vit pas au milieu des mammouths laineux ou des tyrannosaures. Donc l'extinction, c'est normal. Là où il y a un problème, c'est qu'on a une extinction qui est 100 à 1000 fois plus grande que normale et qu'on n'a pas plus de création d'espèces parce que ça ne va pas plus vite, c'est toujours au même rythme. Donc on est en perte sèche. Et le fait de perdre quelques espèces, ce n'est pas forcément un problème. L'exemple que je donne, c'est si jamais il y a un boulon qui tombe sur un avion, ce n'est pas trop grave, il y a d'autres boulons qui tiennent les ailes, etc. Mais si on a un deuxième, ça commence à devenir un peu problématique. Et à partir de combien de boulons est-ce qu'on ne prend plus l'avion? Là, c'est exactement pareil. À partir de combien d'espèces, cette espèce de toile du vivant qui tient toutes les autres espèces, va s'effondrer. Et la métaphore avec les pièces, c'est ces points de basculement. Un point de basculement, c'est quand vous faites une action qui est exactement identique à toutes les autres actions et que ça va pourtant déclencher quelque chose d'irréversible. Si vous empilez des pièces, il ne va rien se passer de spécial jusqu'au moment où une pièce de plus va faire basculer. Et là, vous ne pourrez pas retourner à un équilibre antérieur, remettre le tas de pièces tout seul. L'équilibre qui va être, c'est les pièces par terre.
Alors heureusement, on a des personnes sur le terrain qui vissent les boulons ou qui enlèvent les pièces des piles, on va dire. C'est vous, par exemple, Sergio Lopez, avec Wildlife Angel. Vous battez en Afrique pour défendre la faune africaine et ceux qui la protègent, parce que c'est important de travailler avec les populations. Mais en quelques mots, aujourd'hui, c'est une véritable guerre qui a lieu sur le terrain et c'est un phénomène qui s'est largement accru en 10 ans.
Oui, c'est exactement une guerre. Et puis moi, j'aimerais bien, à l'instar de Gilles, qui nous a raconté comment tout a commencé, moi, j'aimerais vous raconter comment tout va finir. Parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Et chaque fois que je vous vois, mais malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Que ces nouvelles nous viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique australe ou d'ailleurs. Les populations s'effondrent, qu'il s'agisse d'éléphants, de rhinocéros, de girafes, etc. Pourquoi donc ? Mais tout simplement pour une notion de rang. Rentabilité. La faune sauvage n'est pas du tout rentable. Par contre, il y a des choses qui le sont beaucoup plus. Ce sont les espaces. Tout à l'heure, mon collègue parlait donc des doublements, des triplements de population humaine. C'est le cas sur beaucoup de continents, en particulier en Afrique. Donc, les gens ont besoin d'espace. Donc, on va grignoter des espaces vivants. On va également donc polluer. On va fouiller le sol parce que si les animaux ne le sont pas, le sous-sol est extrêmement rentable. Il y a également donc, la chasse aux trophées qui est intéressante parce que n'en déplaise aux chasseurs qui se disent des ardents défenseurs de la conservation, pourquoi chassent-ils aujourd'hui ? Pour manger, je ne pense pas. Ils chassent pour abattre des animaux, pas du tout pour les conserver. Donc enfin, il y a plein d'éléments comme ça. À un moment donné, il faut appeler un chat. On court droit à l'effondrement de ces populations. Mais si, à un moment donné, on décide de dire stop, c'est ce que nous avons fait nous chez Wildlife Angel, on va sur le terrain avec les populations locales, avec les rangers, on est à leur côté. Et ce qu'on demande ensuite donc, aux populations qui sont en France, qui ne peuvent pas nous aider, c'est d'en parler autour d'elles, de discuter dans les familles, dans les écoles, de manière à ce qu'à un moment donné, on prenne conscience effectivement que l'éléphant, etc., ne sont pas simplement des représentations, telles que je peux l'avoir sur l'épaule là, mais ce sont des êtres vivants. Et si ces animaux-là s'effondrent, c'est la biodiversité qui s'effondre et l'humanité qui s'effondre aussi. Mais j'aimerais également rajouter, on a 2 rangers par semaine qui sont abattus dans le monde. 2 rangers par semaine. Et ça, effectivement, tout le monde l'oublie. Et c'est la raison pour laquelle il faut également, donc c'est grâce à l'être humain qu'on va s'en sortir. C'est à cause de lui qu'on est en train de perdre les animaux, mais c'est grâce à lui qu'on pourra s'en sortir, je pense.
On compte sur vous, en tout cas, et on compte aussi sur Sabrina Krief. Alors vous, vous travaillez avec les populations locales dans l'ouest de l'Ouganda, dans le parc national de Kibale, pour protéger les chimpanzés. Les chimpanzés, on va le rappeler, ils sont génétiquement nos plus proches cousins. J'avoue avoir eu la chance de croiser leur regard au Gabon. C'est un regard qu'on n'oublie pas. Et vous, vous les accompagnez pour les protéger ?
Oui, et à l'instar un peu de toutes les autres espèces dont on a parlé, 70% des populations ont disparu depuis les 50 années où nous sommes sur Terre, les dernières 50 dernières années. Donc c'est assez catastrophique aussi. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont nos plus proches parents et qu'on n'est pas non plus capable de les protéger. Donc en Ouganda, en fait, la situation est un peu particulière. On travaille, nous, dans un parc national duquel les populations humaines ont été expulsées. Et les principales actions qui ont à être menées sont de réconcilier, en fait, ces populations avec la faune sauvage. Puisque les chimpanzés, en fait, sont dans cet endroit des pilleurs, comme les éléphants. Ils vont aller voler le maïs, les plantations autour de ce parc. Donc, une des principales menaces qui pèsent sur les chimpanzés sont non seulement le braconnage, mais bien sûr la perte de l'espace. Les chimpanzés vivent en forêt tropicale. C'est la principale source de biodiversité sur notre planète aussi.
Et donc, vous vous êtes rendu compte, comme beaucoup de personnes ici qui travaillent sur la biodiversité, c'est incroyable parce que nous, on disait qu'on voit les éléphants sur les paquets de céréales, mais en Afrique aussi, finalement, les enfants connaissent très peu la biodiversité qui les entoure parce qu'ils ne vont pas dans les forêts. Et donc, vous avez créé une malle pour la connaissance des grands singes et vous la baladez comme ça dans toute l'Afrique pour qu'ils soient sensibilisés à connaître les grands singes qui vivent pourtant assez près d'eux.
Effectivement, notre rôle de sensibilisation, c'est de mieux faire connaître ces chimpanzés et, si possible, de faire en sorte que ce soit les communautés locales qui prennent en charge cette conservation. Et avec eux, on monte des projets, donc par exemple des projets de barrières de ruches, de clôtures de ruches, qui sont faites pour empêcher les éléphants de venir piller et qui génèrent des revenus. Parce que, évidemment, la principale cause de braconnage, c'est aussi cette misère et cette pauvreté. Cette animal permet aussi dans les écoles de mieux les comprendre, mieux les connaître. Donc il y a vraiment un ensemble à travailler avec les populations locales et cette agriculture de type agroforesterie durable et bio, il n'y a pas qu'ici qu'il faut la promouvoir, c'est aussi en Afrique pour la santé de la faune et pour la santé des humains.
Patrice Burger, vous vouliez dire un tout petit mot, je crois.
Oui, ce que je voulais dire, moi, je voulais remercier C'est pas du vent, parce que je trouve que c'est une émission qui nous aide à travailler dans ce que nous faisons. Nous travaillons dans le monde entier, particulièrement dans les zones arides, et les gens écoutent C'est pas du vent, ils apprennent. J'ai écrit deux, trois petites choses que j'ai envie de vous lire simplement, banalement. Une émission qui est dans l'air du temps, mais qui ne brasse pas que de l'air. L'air de rien, elle sème le vent du changement pour lutter contre les tempêtes. Elle éteint les petites flammes, mais elle allume les grandes et choisit de faire confiance aux arbres contre le vent. Comme Georges, elle sait que chez les fâcheux, que le vent choisit les victimes de ses petits jeux et nous apprend que si on ne peut pas changer la direction du vent, on doit apprendre à orienter les voiles. Merci beaucoup.
Merci à vous. Allez, on se fait une petite pause musicale avec un groupe que nous aimons dans cette émission. Ils sont venus exprès pour nous, pour souhaiter notre anniversaire, HK et ses amis Saltimbanques.
Commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée, nous devons disparaître de leurs états avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs états avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. De ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible. Du temps de cerveau disponible, oh qui chérit ce temps, ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans ça, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence.
HK et les Saltimbanques, merci beaucoup sur la scène de Grande Contrôle à Paris pour notre anniversaire. Et oui, c'est pas du vent, fête ses 10 ans. Alors, vous l'avez entendu dans la première partie de l'émission, le bilan n'est pas très réjouissant. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors, pour essayer de comprendre, nous avons reçu énormément d'invités dans cette émission, mais il y en a un qui nous a marqué avec François Porcheron ces derniers temps. C'est vous, Sébastien Boller. Alors, on a décidé de vous inviter pour notre anniversaire. C'est un peu notre cadeau. On fait ce qu'on veut, hein, de toute façon. Et alors, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez publié un livre passionnant que j'incite tout le monde à lire qui s'appelle « Le bug humain ». Pourquoi notre cerveau nous oblige à détruire la planète et comment l'en empêcher? C'est publié chez Robert Laffont. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à changer nos comportements? Qu'est-ce qui bloque?
L'être humain est une espèce qui a réussi à conquérir la planète, qui a magnifiquement réussi dans l'échelle du vivant. Grâce à quoi? Grâce à son cerveau. Le cerveau humain, on a coutume de dire que c'est l'objet le plus fantastique, le plus complexe de l'univers. C'est celui qui nous permet d'aller sur la Lune, de construire des cathédrales, des choses, une technologie fabuleuse, de créer de l'art aussi, comme de la musique. Ça peut tout faire, un cerveau humain. Mais ça peut aussi détruire le monde. Aujourd'hui, nous avons conscience de ce qui va arriver, dans 20, dans 30 ans. Mais malgré tout, on continue à fonctionner de la même façon. Même les manifestations qu'on voit aux quatre coins du monde, il y a une prise de conscience. Mais quand on regarde les chiffres, les productions du plastique, l'extraction des matières fossiles, ça continue à augmenter exactement au même rythme. Pourquoi on n'est pas capable de convertir notre conscience en désir d'action concrète maintenant? Alors moi, je me suis posé la question avec ma formation de neurobiologiste. Je me suis dit, c'est forcément dans notre cerveau. Il y a quelque chose qui cloche dans notre cerveau. Et quand on ouvre le cerveau, on voit qu'il y a schématiquement deux grandes parties. Il y a la partie externe, vous savez, qui s'appelle le cortex, qui est toute plissée. Et c'est cette partie-là qui nous rend intelligents, qui nous permet de planifier, de collaborer, pouvoir d'abstraction, c'est notre force, d'accord? Mais quand on va un peu plus à l'intérieur du cerveau, quand on remonte le temps, en fait, à l'échelle de l'évolution, on a une zone cérébrale beaucoup plus ancienne, qui est présente aussi chez les singes, chez nos ancêtres encore plus lointains, même chez des rats. Et cette partie du cerveau s'appelle le striatum. Et ce striatum, il a une force fantastique, c'est que lui, il va nous inciter à agir d'une certaine façon. Et comment il va nous y inciter? En nous donnant du plaisir avec une molécule qui s'appelle la dopamine. Et il va le faire dans des circonstances très, très précises et très connues aujourd'hui, qui sont très simples. Vous pouvez les reconnaître en vous et autour de vous, c'est quand on mange, quand on se reproduit, quand on a un rapport sexuel, quand on acquiert du prestige, du pouvoir, de la domination, quand on fait le moins d'efforts possible et quand on amasse de l'information autour de nous. Ça se comprend très bien. Manger, ça a été vital dans toute notre histoire. Vous tombiez sur une proie au paléolithique, il fallait vous jeter dessus, si possible en manger le plus possible, parce que vous n'étiez pas sûr d'en trouver une autre avant des semaines ou des mois. Donc manger, dopamine, et puis manger sans limite, parce que sinon vous étiez éliminé. Deuxième grand besoin, la reproduction, le sexe, là aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, indispensable pour transmettre les gènes, pour que la vie continue. Donc dès qu'on a des rapports sexuels, plaisir, dopamine. La domination, le pouvoir, le prestige social, c'est pareil. Depuis qu'on vivait au paléolithique dans des groupes de quelques dizaines d'individus, gagner un cran dans la hiérarchie sociale, ça donnait accès à plus de nourriture, plus de partenaires sexuels. Donc c'est sélectionné par l'évolution, donc c'est récompensé par de la dopamine dans notre striatum. Le quatrième besoin, en faire le moins possible, ça c'est un impératif qui est à l'homéostasie, le besoin de tous les êtres vivants de minimiser leurs dépenses d'énergie en maximisant leurs entrées d'énergie. Donc on a même une classe de neurones très spécifique dans notre striatum qui s'allume quand on fait le moins d'efforts possible. Par exemple, vous êtes dans votre canapé, vous avez le choix de vous lever pour aller changer de programme sur le téléviseur ou d'appuyer sur la télécommande. Ces neurones vous disent, reste dans ton canapé, appuie sur la télécommande, pioche dans les chips et tout va bien. Dopamine. Et puis le dernier, c'est trouver l'information. Et ça, depuis le début du premier pas de l'être humain sur Terre aussi, dès que vous trouviez une information dans votre environnement, une empreinte de pas, par exemple, dans la terre séchée, si vous saviez interpréter cette information, vous saviez qu'il y avait un prédateur, une menace ou une proie, une garantie de survie. Donc on détecte de l'information comme ça. Alors tout ça, c'est une machine fantastique, le striatum. C'est ce qui nous a amené jusqu'où on est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça pose problème aujourd'hui? Parce que notre espèce a développé la partie supérieure externe dont je parlais tout à l'heure, le cortex cérébral, qui lui est capable de faire toutes sortes de technologies, la charrue, la roue, l'invention de l'agriculture, qui ensuite a donné l'agriculture intensive, les OGM, les pesticides, l'élevage en batterie, toujours plus de technologies pour donner à ce striatum toujours plus à manger, toujours plus de moyens d'avoir du sexe. Je prends l'exemple de manger, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, que le cortex produit de l'industrie, il produit quoi ? De l'agriculture intensive, et le résultat, c'est que le striatum prend tout ce qu'il veut et qu'on est dans une épidémie d'obésité. Sur tous les continents, l'obésité progresse et c'est la première cause de mortalité maintenant, avant la faim dans le monde, d'accord ? Et comme on n'arrive pas à se limiter, eh ben on exploite justement les sols, comme on l'a dit, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre, et ce striatum, lui, qui a été programmé pour manger sans limite, ne sait pas s'arrêter. C'est pareil avec le sexe, hein. Le sexe aujourd'hui, le cortex a inventé Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques.
Et le problème, c'est qu'on en veut toujours plus. Forcément de sexe, mais...
Aussi, également.
Mais quand vous parliez, par exemple, d'exister à l'échelle sociale, on veut plus de marques, on veut la dernière voiture, on veut... Et quand on l'a, la dernière voiture, au bout d'un an ou deux, on regarde la voiture du voisin, puis on se dit, celle-là, elle est pas mal aussi. Donc, en fait, on est un être insatiable.
Exactement. Ça, c'est lié à une propriété très spéciale de ces neurones à dopamine dans notre striatum. C'est que quand ils reçoivent tous les jours la même quantité de stimulation... de nourriture, mais aussi toujours les jours le même partenaire sexuel ou tous les jours le même niveau d'équipement dans votre automobile, par exemple, au bout d'un moment, ces neurones, ils coupent les vannes de la dopamine, il n'y a plus de dopamine, et donc on s'ennuie. Ça s'appelle l'habituation hédonique. Et le seul moyen pour faire repartir la dopamine, c'est d'augmenter les doses. Il y a un principe de croissance biochimique dans notre cerveau qui fait penser au principe de croissance économique, dont on n'arrive pas à se libérer. Ça a été conceptualisé, même dans les années 20, par un rapport qui a été remis au président Hoover. Ils ne savaient pas comment relancer la production sur les chaînes de production. Ils avaient constaté que si vous disiez aux gens, vous avez une voiture, mais si vous voulez être mieux que le voisin, il vous en faut une deuxième, à ce moment-là, ils ont réussi à relancer la machine.
Et donc, à partir de là, on comprend bien que c'est pas très compatible avec l'écologie. Après, si on veut en savoir plus, il faut lire votre livre, Le bug humain, je vous assure, c'est passionnant. J'espère qu'à cause de ce que vous avez dit, il va pas trop y avoir de crise de couple à la sortie. Mais bon, vous avez démontré comment fonctionnait le cerveau. Mais le cerveau, c'est aussi des capacités d'émerveillement, c'est aussi de la curiosité. Et c'est ceux qui utilisent à fond ces deux qualités, eh bien, sont les reporters, nos reporters, ce soir je veux dire que sont les nôtres, qui depuis 10 ans sillonnent le monde pour l'émission. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Alice Milo, Cerise Maréchaux et Igor Strauss. Voilà, ils ont tous les trois fait beaucoup de reportages pour l'émission depuis 10 ans. Alors Igor, on va démarrer avec vous. Vous êtes notre monsieur Afrique, on peut dire.
On peut dire ça, oui.
Alors, quelques souvenirs, c'est pas du vent pour vous, c'est quoi ?
J'ai sillonné la terre pour vous, Anne-Cécile, bon anniversaire. On s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est extraction, finalement, toute cette industrie extractive, on parlait de la richesse des sols, et du non-respect de l'environnement et des droits humains, évidemment, j'aurais pu parler de beaucoup de pays. Moi, il y a un exemple qui m'a marqué, c'est dans ce petit pays, le Gabon, et tout au nord, près de Mounana, il y a Areva qui exploitait longuement l'uranium. Ça a été réhabilité, mais mal fait. Et à quelques kilomètres de là, une autre multinationale française, Eramet, exploitée via une filiale, parce que le problème, c'est toujours que les sociétés mères ne sont pas responsables de ce que font les filiales sur le terrain. Une société française, Eramet, exploitait du manganèse. Alors, c'est un minerai qui permet de renforcer les alliages. Et alors, quand je faisais 2 enquêtes en même temps, j'allais voir Eramet, ils me disaient, mais nous, on ne fait que du manganèse. Et ils avaient, envasé une rivière. Les gens ne pouvaient plus boire, plus pêcher, plus rien faire finalement, mais nous c'est rien du tout. Allez voir à côté ce que font les petits camarades d'Areva, eux c'est catastrophique. Et Areva me disait, mais nous on a au moins tenté de réhabiliter le site, alors que eux et Ramel, ce qu'ils font c'est scandaleux. Moi je veux bien partager l'optimisme, je pense que les citoyens ont beaucoup bougé, je suis assez optimiste là-dessus. En revanche, à nous, citoyens, journalistes, d'être vigilants sur l'action de ces multinationales. On parle de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il ne s'agit pas uniquement de construire un petit dispensaire, une petite école. Il faut des vraies politiques responsables. Areva, un employé français du site de Mounana, est décédé d'un cancer. Ça a été reconnu maladie professionnelle. Il a été dédommagé. Aucun Gabonais n'a été dédommagé. Voilà.
Merci Igor. Oui, il reste beaucoup à faire et on compte sur vous pour scruter tout ça. Cerise Maréchaux, vous êtes allée beaucoup aux États-Unis, c'est un peu votre terrain de jeu, et pour C'est pas du vent notamment. Donc vous nous avez rapporté des beaux reportages, beaux au sens intéressant, mais pas toujours.
Oui.
Ouais, des beaux reportages, des beaux souvenirs. C'est vrai que souvent aux États-Unis, j'ai été confrontée à des sujets très difficiles, hein, où les problématiques environnementales, on comprend à quel point elles sont étroitement liées aux problématiques sociales, urbanistiques, raciales. Souvent, c'était très difficile, mais là, j'ai voulu ramener un beau souvenir plutôt du Texas, où j'ai fait un reportage sur les chauves-souris. Donc j'y suis allée parce qu'au Texas, il y a 33 espèces différentes de chauves-souris. Il n'y a pas que des oléoducs, c'est une biodiversité très riche dans cet état. Alors j'y suis allée pour faire un reportage avec une approche journalistique, pour expliquer, donner des informations sur cet animal méconnu qui est en fait absolument gracieux, fascinant, avec son physique bizarre mais gracile, avec son système d'écolocalisation qui lui permet de se repérer, de bouger dans l'espace en émettant des sons haute fréquence qui font écho à des surfaces. Et d'ailleurs ça fait un joli écho à la radio, hein, en fait qu'en radio on voit sans voir, on se déplace dans un espace virtuel. On peut toucher, sentir sans palper les choses véritablement. Je voulais aussi expliquer à quel point cette espèce, on parle beaucoup de l'importance des abeilles bien sûr, mais les chauves-souris aussi sont indispensables à notre survie et à la survie du monde, parce que sans les chauves-souris, l'agriculture serait dévastée par les insectes, et puis nous on serait envahis de moustiques. Et puis finalement dans ce reportage, j'ai été plongée dans un moment de poésie, de beauté pure, parce que je suis allée à l'entrée d'une grotte à Bracken Cave près d'Austin, et au crépuscule en fait les mamans chauves-souris sortent pour se nourrir. C'est des chauves-souris qui émigrent du Mexique et qui vont donner naissance dans cette grotte. Et pendant 2 heures en fait, j'étais au théâtre, en fait le théâtre de la nature, et pendant 1 heure et demie il y a comme une rivière en fait noire et mouvante de chauves-souris qui a envahi l'espace, avec un petit bruissement complètement fascinant, et en même temps c'était une sorte de silence religieux, et tous mes sens étaient brouillés. J'avais l'impression d'être Alice au pays des merveilles, toute petite dans cet océan, et le ciel devenait rivière, et voilà, j'étais vraiment émue par cette poésie de la nature en fait.
Beaucoup ouais. Plus ému qu'après la pollution de Deepwater Horizon, ce genre de choses que vous avez couvert aussi. Exactement. Merci pour ce moment de poésie. Oui. Alice Milo, vous avez beaucoup voyagé. Bonsoir. Aussi pour C'est pas du vent, mais notamment en Europe. Et même en France, parce qu'on fait beaucoup de reportages en France aussi, et certains vous ont marqué.
Oui, alors moi j'ai un souvenir beaucoup moins rigolo que Cerise, beaucoup moins poétique. Non, j'avais envie de raconter un des premiers reportages que j'ai fait il y a 10 ans pour C'est pas du vent, qui était dans un abattoir. On avait décidé de faire une émission sur les abattoirs. Donc j'ai déjà bien galéré pour avoir une autorisation de tournage, mais j'ai fini par trouver un abattoir à Laval qui m'a accueilli. Et ce que je garde de ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est terrible d'assister à la mise à mort en direct d'un être vivant, mais ce qui est terrible en fait, c'est l'industrialisation de ça. Et je trouve ça assez glaçant. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous raconter, c'est qu'après, j'ai fait plein de reportages sur l'élevage et sur l'élevage industriel. Et en fait, je me suis rendu compte des années plus tard que ce que j'avais cru être un souvenir horrible de l'abattoir était finalement pas ce qu'il y avait de pire, parce qu'en fin de compte, les conditions d'élevage des animaux dans les élevages industriels sont bien pires que l'abattage, en fait. Et l'abattage est presque quelque part un peu la libération pour ces animaux. Et notamment, je voulais parler des élevages de porcs, qui sont, à mes yeux, ce qu'il y a de plus horrible, parce qu'ils sont vraiment parqués, voilà, ils voient pas la lumière du soleil de leur vie pour la plupart. Et en fait, ce qui est affreux, c'est que c'est des animaux qui ont besoin de jouer, de fouir, de mettre le nez dans la paille, etc. Et en fait, en France, en Europe, on les élève sur caillebotis, donc en fait, sur très clairement des grilles, en fait, en métal. Donc c'est des animaux du coup qui s'ennuient toute leur vie, et comme ils s'ennuient, bah, ils essaient de jouer avec leurs congénères, et pour jouer avec leurs congénères, bah, ils mordent leur queue de leur copain jusqu'à ce que la queue se détache, etc. Donc en fait on a trouvé un système hyper ingénieux dans les élevages porcins français et européens, c'est qu'en fait à la naissance on coupe les queues des cochons et puis on leur lime les dents. C'est intelligent, comme ça on résout un petit peu le problème. Et donc pour conclure sur une note un peu plus positive, c'est qu'il y a quand même un modèle qui a trouvé une solution à ça qui fonctionne, c'est les Suédois. En Suède ils sont bien en avance par rapport à nous sur la question du bien-être animal, et donc eux ils ont compris qu'en fait il fallait élever les porcs sur de la paille, que ainsi ces animaux renouaient en fait avec leur instinct naturel et ils n'écrasent plus leurs petits.
Merci voilà. Beaucoup, merci à tous les trois pour votre témoignage.
Bon anniversaire.
Merci beaucoup, je vous laisse regagner vos places. Et alors il y a quelque chose d'autre qui a changé durant ces 10 ans, ce sont les artistes qui au fur et à mesure se sont engagés de plus en plus. Et là, on en a avec nous Fra et Sam, chanteurs de Chaka Ponk. Bonsoir.
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 Alors vous êtes là parce que depuis quelques années, vous êtes posé des questions. Vous êtes dit, bon, nous, on a des milliers de personnes dans nos concerts. On est hyper suivis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous avez eu une idée.
Alors, effectivement, Enfin, on disait dans la première partie d'émission qu'il fallait appeler un chat, et c'est vrai qu'on... C'est pas en chantant des chansons qu'on va éteindre l'incendie qui est en train de ravager la planète et le vivant. Donc, il faut faire autre chose. Et malgré tout, même si on chante pas de chansons, on a déjà quand même des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent, voire des millions pour certains. On a ce qui s'appelle les réseaux sociaux avec des followers. Et on s'est dit qu'il fallait pouvoir leur raconter autre chose que des chansons. Donc, on est allé voir la fondation Nicolas Hulot et les scientifiques qui entourent cette fondation. Et on a travaillé avec eux sur l'établissement d'une liste de comportements hyper efficaces et hyper abordables qui feraient que si tout le monde les adoptait, il n'y aurait plus vraiment de problème en fait, sur cette planète. Et on a regroupé autour de cette liste de comportements des célébrités, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de, qu'on écoute beaucoup, qui ont beaucoup de followers. Et donc on a demandé deux choses à ces célébrités, ceux qui ont accepté d'intégrer ce collectif qui s'appelle The Freaks. La première chose, c'est de changer leur ADN, c'est de changer leur comportement, leur façon de consommer, de se transformer totalement au quotidien. Et la deuxième, d'expliquer à leurs followers comment faire. Donc ça, c'est l'idée du collectif.
Et il faut repenser, vous disiez, Fra, il faut repenser le grotesque. J'avais bien aimé cette phrase.
Oui, il faut remettre le curseur. On a perdu la notion de ce qu'était grotesque, en fait, au quotidien. Il y a plein de petites choses qu'on fait au quotidien, qu'on trouve normales et qui participent à la destruction du vivant et de la planète. Et ces choses-là, en fait, il faut qu'on redéfinisse ce qui est grotesque et ce qui ne l'est pas. On ne fume plus des clopes dans les chambres d'hôpital. On ne fume plus des clopes à côté des enfants et tout ça. Un jour, on s'est dit, c'est débile, et on ne le fait plus. Et maintenant, c'est grotesque de fumer une clope dans la gueule d'un gosse. Eh bien, prendre une bouteille en plastique pour boire de l'eau... C'est aussi débile que de fumer une clope dans la gueule d'un gosse. Donc il faut qu'on comprenne que ces petites choses-là qui paraissent normales sont en fait grotesques et dangereuses pour l'environnement.
Merci beaucoup. Ne bougez pas, restez avec nous. On va inviter, pour conclure cette émission, Patrick Vivray, qui est donc notre philosophe de la soirée, cofondateur des rencontres internationales Dialogue en Humanité et du collectif Roosevelt avec Edgar Morin et Stéphane Hessel. Patrick, vous avez le rôle de conclure cette émission, nous dire ce que vous en avez retenu avec votre regard.
Alors, moi, ce que j'ai retenu notamment, parce que c'était très riche, mais c'est cette situation d'une humanité qui est à un carrefour critique de son histoire, où elle peut se perdre. On a même l'embarras du choix sur la façon de réussir la sortie de route dans la brève histoire depuis Cro-Magnon. On peut détruire nos écosystèmes, on peut détruire le climat, on peut se détruire nous-mêmes par armes de destruction massive, on peut aussi se détruire par fatigue d'humanité. Donc ça, c'est du côté de la perte. Mais je retiens aussi, à travers les éléments positifs qui ont commencé d'apparaître, notamment du côté des artistes, qu'il y a une autre voie possible, qui est ce que nous appelons justement dans les dialogues en humanité la possibilité de grandir en humanité. C'est-à-dire le fait que, dans ce carrefour critique, l'humanité peut aussi progresser en qualité d'humanisation. Après le long chemin de l'hominisation, c'est la question de l'humanisation. Donc, comme le dit souvent Edgar Morin, certes, on aurait mieux fait de nous appeler Homo sapiens demens, parce que, à l'évidence, le rapport entre génie et folie est très présent. Mais en revanche, à défaut d'être une origine, sapiens sapiens, ça pourrait être, ça devrait être un projet. Alors, dans ce rendez-vous critique, on a un problème majeur qui a été évoqué à plusieurs reprises dans cet échange, c'est le rapport à l'économie. Parce que à partir du moment où l'économie vient compter positivement un certain nombre d'activités qui sont notoirement destructrices pour le vivant, pour les humains eux-mêmes, et inversement ne compte pas un certain nombre d'activités qui, elles, sont bénéfiques, évidemment, on se retrouve avec une contradiction majeure. L'une des pistes qui est intéressante, c'est de revenir au sens même des mots qu'utilise l'économie, et par exemple des mots comme valeur ou des mots comme bénéfice. Et on peut aller, comme le disait HK tout à l'heure, du côté de cette alternative positive où nous n'avons pas besoin ni de la haine, ni de la violence, ni des armes pour nous y engager.
Merci beaucoup, Patrick Vivray. Merci à tous. d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation, ça je le dis plusieurs fois par semaine. Merci à Mathilde Giraud et à toute l'équipe de Grande Contrôle pour leur accueil, à Benjamin Availlou à la coordination technique, à Laure Tamperville, Romain Ferré, Christophe Valette pour la vidéo, à Boris Vichit et à Mathias Taylor pour le son. Et on se quitte en musique avec HK et ses amis Saltimbanque, que vous pouvez retrouver au Cabaret Sauvage dans le spectacle Welcome Alicoum du 30 octobre au 2 novembre et au Café de la Danse avec le spectacle Le Cœur à l'Outrage les 4 et 5 décembre. Musique.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se mettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ouais nous, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont les menteurs. On lâche rien. Tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas de choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.